1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus claire?
Good morning, Vietnam!
Are you drinking? No.
Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
On prend un astre dans le studio, on laisse voir, on lui met un casque, il parle dans le micro.
Suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je passerai à l'antenne.
C'est cool, ça va arriver les voisins.
Eh oui, vous êtes en air sur PFM Radio, les décadrés 99.9. Vous ne pouvez pas voir ce que je fais, chers auditeurs, mais je fais n'importe quoi avec mon corps. Alors les gars, comment vous allez, Benjamin, ça va?
Ça va très très bien.
Ça a l'air de bien aller, moi je pète la forme, je viens de me prendre le micro dans le nez. Et toi, Ange, comment vas-tu?
Ah, ça va très bien, tu me fais penser à un crabe qui se balade sur la plage ou bien qui fuit un oiseau.
Mais c'est exactement
ça. Le mode Zoidberg de Futurama.
Mais ce qui m'est... En fait, il m'est arrivé un truc incroyable ce week-end. J'étais à la mer, non, en fait je déconne, il s'est rien passé du tout. Je suis resté enfermé chez moi à jouer aux jeux vidéo. Bravo. Bah voilà, ouais, bravo, vive la jeunesse et vive la France. Alors aujourd'hui, ça va être une émission avec un thème un peu particulier, mais on avait très envie de le faire. C'est un thème un peu, voilà, une émission un peu sur la pop culture, hein. C'est un peu ça, on va revenir sur des dessins animés qui ont bercé un peu notre enfance, qui sont des véritables références pour les petits comme les grands, hein, dans l'ensemble.
Des dessins animés, qui ça?
Bah toi.
Non.
Ah oui, non, c'est pas un dessin animé. Excuse-moi,
oui, je viens. Il y a quand même le dessin animé qui est bercé notre enfance.
Oui, il y a aussi le dessin animé, c'est parce qu'en fait, moi, je repense au dessin animé, autant
mais
moi.
Je te rassure, j'en cite.
Ah, tu en cites, ouais. Ok, c'est parfait, je ne me suis c'est pas bon. Complètement fourvoyé, ça va. Bah du coup, Benjamin, vu que t'as l'air...
Au taquet,
je pense qu'on va commencer par toi, tu vas nous parler de Batman.
Batman.
Non, je l'ai pas fait là. J'ai... Non, c'est pas pour maintenant.
Donc je vais vous parler de Batman, la série télévisée des années 60. C'était une époque où les comics books croupissaient sous la censure de la Comics Code Authority. Où DC Comics, malgré un revival cosmique épanouissant, tendait à faire baigner ses grands héros dans le kitsch, frôlant parfois le ridicule. Cela, pendant que Marvel Comics réussissait à passer entre les maillons pour inventer des super-héros géniaux au discours inventif, audacieux et même subversif, de Spider-Man à Iron Man, en passant par le retour de Captain America.
Eh oui.
Hors des comics books, sur le grand écran, Superman a déjà eu son succès sous forme de court-métrage animé au début des années 40, vous vous en souvenez?
Oui, j'étais là.
Grâce aux frères Fleischer sur le petit écran, grâce aux frères Fleischer au cinéma, et sur le petit écran sous la forme d'un feuilleton télévisé en noir et blanc qui s'appelait Les Aventures de Superman. Donc série télévisée à succès ayant eu 6 saisons n'empêche, diffusée de 1952 à 1958 avec George Reeves dans le rôle titré. Non, ce n'est pas le père de Christopher Reeves, merci. Okay, voilà. En 1944...
Non mais le rapprochement aurait pu se faire.
Oui,
il aurait pu se faire.
Fait.
En 1944, Captain America a eu aussi le droit à son céréal. C'est-à-dire, vous voyez ce que c'est un céréal?
Ouais, c'est un bol. Enfin, en fait, dedans, on a un bol, on met des trucs dedans, on met du lait, on prend une cuillère, on attend que ça se ramollisse un peu, puis on le mange.
Non, je parle non pas de céréales, mais de céréales.
Ah, comme céréales killer.
Voilà.
C'est un mec vorace au petit déjeuner, ça.
Donc un céréal, c'est une série de films courts diffusés au cinéma. Voilà. C'était une grande histoire en petit chapitre.
C'est quoi, voilà, c'est une espèce, enfin. Une mini épopée épisodique en fait.
Ouais, c'est ça. En 1943, on pouvait aussi voir au cinéma en sériel Batman en 15 chapitres dans The Batman ou An Evening with Batman and Robin qui suivait les deux héros qui se battaient, attendez, contre un savant fou japonais. Bah oui, on est en pleine guerre. Hein, donc forcément.
Alors en plus savant fou et en plus japonais, hein, génial. Alors,
1949. Nouveau serial nommé Batman et Robin, suivant les deux héros aidés de la journaliste Vicky Vale, tentant de retrouver une invention dérobée.
Oh putain, oui.
Et enfin...
Je l'ai vu celui-là.
Il est assez drôle.
Il est assez drôle.
Dans les années 60, année pop, une série télévisée Batman est lancée. Mais à l'inverse de Star Trek, le tout n'est pas un ensemble sérieux teinté d'humour. Non, la série Batman est une comédie, grande comédie, volontairement kitsch. Alors je pense aux onomatopées présentes lors des bagarres pour dire le coup du genre POW!
C'est génial.
Et bam!
Une série outrageusement colorée, formidablement ironique, passionnément loufoque, follement absurde, magnifiquement burlesque.
Et un Robin absolument énervant.
Il est génial.
Et en fait, il est tellement énervant. Je le trouve tellement agaçant comme gars qu'il en est, génial en fait.
Une série musicalement groovy aussi, on
peut
dire.
Ouais, ouais, exact.
Et aussi
des scènes de danse.
Voilà, avec le batouzi.
Ouais.
Et aussi subtilement incisive et critique contre certaines mœurs de la société américaine des années 60.
Ouais.
Donc je pense par exemple à la prise de médicaments pour rien qui pouvait se faire. Bien et sûr, à un moment donné, dans un épisode, il le critique mais de manière très ironique, c'est assez drôle. Et je pense aussi au refoulement de l'homosexualité qui est traité. Et notamment avec Robin qui est amoureux de Batman.
C'est jamais dit, hein.
C'est tellement montré. C'est quand même vachement dit. C'est jamais dit. Je suis gay, mais c'est dit. Quand Robin voit Batman dans la Batmobile en train de draguer Catwoman.
Oui, il est pas content.
Il est jaloux. Il éteint la caméra. Ouais. Et ça, c'est bien de traiter quand même de ce refoulement et de dire bah non, mais pourquoi vous refoulez ? Allez-y, quoi.
Et donc, c'est un aspect
du
personnage qui peut être traité.
Et c'est comme ça que vous pouvez comprendre, chers auditeurs, toutes les rumeurs qui peuvent passer sur Batman et Robin. Voilà. En fait. Parce qu'au final, si t'as pas vu la série, tu peux pas le comprendre. Pourquoi
Oui, c'est ça.
Et mine de rien, on avait aussi des intrigues policières, d'action ou d'espionnage. Ça,
oui,
dire.
Oui.
Et avec plein de bagarres assez rigolotes avec les onomatopées. Et d'ailleurs, qui n'a pas connu la musique de son générique d'ouverture et de fin? D'ailleurs, laisser parler son interprète principal, Adam West.
Ouais, mais c'est déjà fini la musique, c'est triste.
Je cite son mot qui introduit donc le livret du coffret Blu-ray. Il écrit, ça doit être même dans le coffret DVD. Hein.
C'est possible.
Pour moi, le fait de courir dans tous les sens avec une cape et un masque devant la caméra, tout en faisant des mouvements de mâchoire un peu étranges, c'était un peu comme lorsque je me déguisais en Batman quand j'étais petit. La différence majeure tient à l'ironie sous-jacente de l'écriture. Il s'agissait d'une comédie, mais absolument pas destinée aux enfants.
Ouais.
Et à la fin, il dit « Quelqu'un veut danser le Batuzi ?» Donc c'était une danse de Batman dans un épisode qui est ridicule.
Il y a plein de vidéos sur YouTube. Hein. Ouais, il y a même des mèmes, il me semble.
Tout est culte dans cette série.
Allez juste jeter un coup d'œil sur le Batuzi parce que franchement, c'est incroyable.
Ce qui est bien avec cette série, c'est que même si t'as pas vu tous les épisodes ou bien même si tu ne connais pas, tu connais au moins certains passages.
Mais il y a énormément de références encore aujourd'hui qui sont reprises de la série mais que les gens ne connaissent pas. Ils utilisent ces références-là sans se dire. Ils savent que c'est Batman, mais ils savent pas que c'est cette série-là.
Rien que le générique où il monte à la corde au grappin sur le mur là.
Sur un mur qui est horizontal.
Ça me rappelle l'épisode aussi. Il y a un épisode avec les gars là dans un lycée, dans un club de sport, dans un lycée, dans un gymnase, avec le Joker.
Ah oui. Okay.
Un épisode absolument magnifique que je vous conseille de voir également.
Donc la série est un succès. Elle aura 3 saisons d'une quarantaine d'épisodes chacune environ. Elle est diffusée 2 fois par semaine sur ABC, donc en prime time quoi, pendant les 2 premières saisons. Et aura en parallèle de la série le développement d'un film, n'empêche, au cinéma avec le même univers. Et j'ai lu sur le très intéressant site qui s'appelle 3 couleurs ceci. Donc le rédacteur écrit: à l'heure où Hollywood ne jure que par les surhommes venus des comics, ce Batman, donc là il parle du film, est une petite folie très rafraîchissante. Et moi j'irais même plus loin en disant que c'est une grande folie. Rafraîchissante, enthousiasmante, enjouée et enjouante. et surtout qui nous manque aujourd'hui. Ça nous manque, des folies comme ça. Alors, je ne peux que vous conseiller de découvrir cette formidable œuvre, notamment donc, la série, donc, qui est sortie récemment dans une version remarquablement et impeccablement restaurée en Blu-ray et DVD. Je pense que vous pourrez le confirmer.
Oui, tout à fait.
Ouais, mais regardez pas le film.
Oh si, le film est plutôt cool.
Ah non, le film, je suis désolé, il est affreusement long.
Il est long, mais il est drôle.
Enfin, le format,
le format film n'est pas adapté.
Le format film n'est pas adapté avec la forme et le fond.
Mais ça reste un plaisir à voir. Comparé à tout ce qu'on a aujourd'hui sur les grands écrans,
mais sur la série encore, tout ça passe, tu vois. Il y a ce côté humoristique, mais le film.
Mais c'est une comédie.
C'est ouais, mais
le film, Antoine ne l'a pas digéré. Moi, je vous le conseille.
Il faut au moins le voir au moins une fois, je pense.
Franchement,
faut le voir une fois.
Il est longué, mais il est super drôle. Alors, restauré à partir des négatifs originaux, alors il faut le dire parce que la série a été tournée en pellicule. Hein. Donc, on peut aussi ajouter que deux séries animées prendront la suite de la série live dès 1968, année de la déprogrammation et fin de la série Batman, pour cause de baisse d'audimat malgré l'arrivée du très populaire personnage de Barbara Gordon, Batgirl. Hein. Puis, avec une nouvelle série animée en 1977. À noter que le film est aussi ressorti récemment en cinéma en version restaurée. Et dernière info, et là vous allez franchement apprécier, DC Comics sort en ce moment une série de BD nommée Batman 66 qui poursuit l'univers de la série.
Ça doit être génial.
Alors c'est magnifique. Hein. Et attendez, Ange, je crois que nous captons un message, Ange. Quelqu'un prend le contrôle de l'antenne.
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait. Bientôt, très bientôt, Batman et moi, nous vivrons pour votre plaisir et votre distraction une de nos plus extraordinaires aventures.
C'est exact, Robin. Vous verrez un film qui vous passionnera, plein de péripéties haletantes, de rebondissements, d'actions et d'éclats. À toute vitesse dans notre Batmobile. Nous survolerons l'océan aux commandes de notre Batcopter pour faire mordre la poussière au plus terrible quatuor du crime que le monde ait jamais vu. Le minimum qu'ils aient pu projeter, c'est d'attaquer la Terre entière.
Voici les quatre infâmes gredins contre lesquels nous luttons. La femme chat.
Vous assisterez au plus parfait des crimes quand je tiendrai Batman dans mes griffes.
Le Joker.
Cette farce sera la dernière. Elle sera fatale, Batman.
Le Pingouin.
Le Pingouin n'est pas manchot. Ils vont la prendre à leurs dépens. Batman et Robin.
Le Sphinx.
Question. Qui saura mettre au point un attrape-nigo qui enverra Batman et Robin sur le carreau?
Dans notre Batcave, nous sommes très bien équipés pour combattre ces génies du mal. Et nous avons aussi le Batcopter. Ici, je lutte avec un requin piégé.
Tu parles d'une sardine?
Là, je suis prisonnier d'un aimant. Et voici le sous-marin des criminels.
Première torpille! Première torpille!
Mais nous avons notre Batcanot. Arme suprême, le déshydratateur. Ils attaquent notre Batcave.
J'ai une hallucination.
Les quatre super criminels se déplacent en pagne parapluie.
Mais moi, Robin, je scrute mon bat écran et je file le parfait amour de Batman. Mais devant une fusée Polaris, les plus forts s'inclinent.
Cramponne-toi, Robin. Cette fois, c'est peut-être bien la fin. Et ce n'est là qu'un bref échantillon des exploits et des extraordinaires aventures de Batman et Robin.
Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre mouchoir.
Ce sera le mot de la fin.
Batman! Et Ange, tu voulais nous dire quelque chose, il me semble.
I am Batman.
No.
Voilà.
Ah bah moi, je suis Robin.
Vous avez entendu du coup la bande-annonce du film. Du film Batman. Et maintenant, je crois que c'est Ange qui va nous parler.
Tout à fait.
Parler de G-Men ou Mystery Men.
T'es nul, Mystery Men.
Mystery Men.
Attention, nous les connaissons bien, nos super-héros, Superman, Spider-Man, Batman, comme nous venons d'en parler, et bien d'autres, mais le souci, c'est que nous ne connaissons pas les plus petits d'entre eux, les plus simples, les plus soi-disant nuls. Je parle bien entendu des Mystery Men, comme vous venez de l'entendre. Mystery Men est un film de 1999 réalisé par Kinka Usher. Ou Kinka Usher, on sait pas vraiment. Donc ce nom ne vous dit rien, et bien c'est normal, à moi non plus. J'ai bien cherché partout, j'ai creusé, et rien.
Je confirme, il a creusé. Tout à fait.
C'est le seul film que ce réalisateur a réalisé, mis à part des films publicitaires. Donc Monsieur Furieux, l'appel et le Fakir Bleu sont de modestes super-héros qui peinent à se faire de la place dans le cœur des gens face à la stature du capitaine admirable, le grand héros de la ville. Mais quand celui-ci disparaît mystérieusement, c'est à eux de faire la lumière là-dessus et de montrer qu'ils sont bien des super-héros. Donc le souci est qu'ils ne savent pas vraiment gérer leur pouvoir ou leur talent. Nous sommes donc plongés dans un univers futuriste dans lequel on rencontre ces personnages qui, disons-le, n'ont pas une très belle vie, mais se raccrochent à leur soi-disant pouvoir afin de donner un sens à celle-ci. Il faut surtout préciser que ce n'est pas un film d'action de super-héros hyper sérieux à proprement parler, comme on peut le voir avec les grands super-héros que nous connaissons bien. Mais il s'agit plutôt, on l'a décrit comme ça avec Antoine en le voyant, plutôt d'un film de série B, c'est-à-dire grossièrement à faible budget et d'une bonne comédie en fait, il s'agit de ça. Et oui, les personnages de ce film sont en réalité de vrais gamins, ne sachant pas gérer une vie de groupe et attaquant les criminels avec les moyens qu'ils ont, en gros très peu, se contentant par exemple de rayer et de cabosser la limousine du grand méchant nommé Casanova Frankenstein. Donc oui, ça, avec des fourchettes et une pelle, ils s'amusent à taper sur la voiture quoi, et à casser les vitres. Voilà,
il n'y a pas vraiment de super pouvoir.
Oui voilà, Monsieur Furieux, ben, il s'énerve. Mais c'est pas un Hulk quoi. Enfin, t'as l'impression pendant une période, tu te dis ouais, il va avoir une super force et tout. Et en fait, non
il est un peu tout nul en fait. Hein.
Il s'est maté en moins de deux quoi.
C'est qui l'interprète, c'est Ben
Alors
Stiller
justement, j'allais en parler, c'est Ben Stiller.
Super.
Mais ça lui ressemble bien, ce genre
génial,
de rôle.
Hein. Il passe très bien à l'image avec celui-là. Donc la réalisation en elle-même est assez simpliste. On retrouve beaucoup d'effets de base qui en fait peut-être un film pas très bien réalisé pour l'époque. Mais il est
pas totalement d'accord parce que je trouve qu'il y a énormément de références dans la mise en scène, dans les lumières et même dans la gestion des fonds verts, parce qu'en fait les fonds verts dans l'ensemble sont pour la plupart assez mal gérés, mais ça donne justement avec la manière dont c'est filmé un côté assez drôle, parce qu'on a l'impression de voir certains plans qu'on peut trouver dans les comics. Par exemple, il y a un plan où les mecs sont de dos, il y a la lune et il y a un putois qui est en train de se frotter sur la jambe d'un des super héros quoi.
Ça m'a l'air très subtil.
Ouais, mais en fait c'est parce que ce super héros, son super pouvoir, c'est qu'il pue en fait.
Ouais, en fait si tu tires sur son doigt, il pète au loin et voilà,
il s'appelle le spleen.
Très subtil.
D'ailleurs, c'est un mec qui joue dans Pee-wee's Aventure.
T'es en train de me foirer toute ma chronique là, si tu dis tout. Hein.
Ouais, excuse-moi.
Non, mais voilà. Enfin, je disais de base, c'est surtout que c'est ça. Et en fait, ils reprennent des plans de base qu'on voit dans les films maintenant, ce qui en fait un film de référence.
Oui.
Il balance plein de mince, j'ai perdu le mot de référence.
Ça
voilà,
fait
à d'autres films.
Limite, ça fait un peu de catalogue parfois.
Ouais, un peu. C'est un peu comme, ben, j'ai envie de dire, catalogue, c'est la critique aussi du monde moderne, en même temps, avec le capitaine admirable, j'ai envie de juste dire de ça, c'est un peu le super-héros qu'on voit, c'est un Superman en fait, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir, il sait voler, mais grâce à des propulseurs qu'il a dans le dos, des propulseurs qu'il a grâce à ses sponsors. C'est un super-héros sponsorisé en fait.
Ça, c'est intéressant.
Sur lui, sur son costume, il a toutes les marques. Donc il a Pepsi, Coca, Honda, des trucs, enfin Yamazaki, Fukishiwa, trucs comme ça.
Pour ceux que ça pourrait intéresser et aussi pour les connaisseurs, il y a un comics qui s'appelle The Boys.
Ah, il est formidable.
Et justement, cet aspect-là m'a fait beaucoup penser à ça parce que les super-héros, c'est dans le comic, il y a la question des super-héros est très mise en avant, c'est un peu des fous furieux et les Boys sont une équipe de gars qui sont là pour gérer un peu leur débordement.
C'est surtout que les super-héros sont créés par une entreprise et gérés par une entreprise privée.
C'est ça.
Ben, là,
en fait, c'est des êtres de notoriété publique, purement et simplement.
Ben là, tu vois, dans le film, par exemple, celui qui s'occupe de trouver les missions à Captain Admirable, c'est un publicitaire.
D'accord.
Ouais, c'est vraiment lui qui cherche ses missions par rapport à l'image qu'il peut donner. Ouais. Mais bon, dans le film, c'est là la première mission qu'on voit qu'il fait, auquel l'appel furieux Et le fakir bleu participe, en fait, c'est dans une maison de retraite, il y a juste des attaquants qui arrivent, et Captain Admirable se trouve que c'est une mission de merde, parce qu'il n'y a rien qui se passe là-bas, c'est une maison de retraite, ils s'en foutent de s'occuper des vieux. Donc du coup, il décide de libérer le grand méchant qu'il a combattu il y a 20 ans avant, pour le recombattre et se faire un peu d'audimat, en fait, à ce moment-là. Mais voilà, c'est super intéressant de voir ça, et donc pour la réalisation, bien sûr, je disais que c'était de base, mais ce film est surtout porté principalement par le casting, qui arrive à sublimer, en fait, l'humour du scénario. Donc c'est pas vraiment super bien écrit, quoi. Il n'y a pas non plus de grandes choses, mais en fait c'est tous les acteurs surtout qui rendent drôle ce film. Il n'y a pas d'effet vraiment défini au niveau de l'humour, mais grâce à leur jeu d'acteurs, c'est franchement super bien joué. Donc on retrouve dans tout ce joli monde le grand, le magnifique Ben Stiller, comme on l'a dit tout à l'heure, qui joue le rôle de Furieux, accompagné par Paul Rubens, que vous avez pu rencontrer en tant que Pee-wee dans Pee-wee Big, Big Adventures. Geoffrey Rush du Discours d'un roi, et Tom Waits des 7 psychopathes. Et
comment d'autres films, Tom Waits, c'est génial, c'est un musicien à la base.
Ouais, c'est un auteur-compositeur à la base, j'ai vu ça à la base, enfin je l'avais vu dans d'autres films et je savais pas qu'il était auteur-compositeur, donc c'est bien, j'apprends des choses aussi en voyant un film.
C'est quand même fou que ce film ait réussi à revenir à un casting aussi
Il est énorme ce casting.
Ce casting est vraiment énorme parce que c'est des acteurs qui viennent vraiment de milieux et d'horizons à chaque fois différents. Et...
Mais c'est ça qui est génial. Hein. Et donc voilà, un humour autour de l'enfantillage et de l'ingestion de pouvoir, presque inexistant ou incontrôlable, mais qui marche parfaitement dans l'univers de ce film. Et Antoine ne pourra pas dire le contraire.
Ah, je dirais pas le contraire.
Si la réalisation est très simple, donc avec les effets de base que je vous ai dit, et que les effets spéciaux laissent peut-être à désirer, je vous conseille fortement d'aller voir ce film, puisque son essence même est l'humour. C'est ce qui rend d'ailleurs agréable les effets spéciaux. Mystery Men, ce sont eux qu'il faut voir. Et en attendant, je vous laisse écouter la musique du film, interprétée par Smash Mouth All Star. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
Écoutez bien les Décadrés sur PFM 99.9. Et après les Mystery Men, c'est Antoine qui va revenir sur un autre héros qui n'est pas super mais qui a quand même un super don, qui s'appelle Sherlock Holmes.
Et oui, ça y est, enfin le moment tant attendu, le moment que j'attendais depuis longtemps est enfin arrivé. C'est Noël! Et oui, non. C'est Noël. Enfin bon, non, pardon, excusez-moi, je me suis laissé un peu emporter par la situation, voilà. En fait, c'est parce que j'en parlais depuis un moment à mes comparses, et beaucoup de gens m'ont demandé de parler de la super série Sherlock. Enfin, beaucoup de gens, en fait, c'est surtout ma mère, qui est une fan inconditionnelle de la série, et il faut dire que le challenge est grand. Alors, le célèbre détective créé par Sir Arthur Conan Doyle est devenu l'archétype même du détective privé, et a inspiré bon nombre d'auteurs ou scénaristes. Nous retrouverons à la genèse du projet Sherlock, Mark Gatiss et Stephen Moffat, tous deux connus pour avoir participé à la série Doctor Who. Sherlock, c'est actuellement 3 saisons composées de 3 épisodes, dont chacun atteint le format d'1h30. Autant dire, qu'il y a de la matière, ouais. Beaucoup de matière. Ah. Et aussi, il me paraît difficile de vous parler de la série en général. Rien qu'à cause de ça.
Je dirais une chose, c'est que c'est plus une figure du détective privé qu'un archétype. C'est peut-être que l'archétype du détective privé,
le terme
en a bien
est
d'autres.
Peut-être justement plus juste. Alors, Je ne vais pas vous parler de la série en général parce que déjà j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais aussi car je souhaite surtout vous parler d'un épisode précis, voilà, l'épisode spécial Nouvel An, qui est à considérer comme l'épisode 4 de la saison 3. En somme, donc, il s'agit du dernier épisode de la série et qui est encore en cours de production et dont le tournage de la saison 4 a d'ores et déjà commencé. Alors, sans plus tarder, parlons peu. Parlons Holmes et concentrons-nous sur ce magnifique épisode, L'effroyable marié. Bah quoi, ça fonctionne bien, non? Parlons peu, parlons Holmes.
Ah, c'était grandiose.
Ah, ça fonctionne bien. Et avant de commencer, maman, cette chronique, elle est pour toi.
Spécial dédicace, gros.
Spécial dédicace à ma maman. Alors, nous sommes en 1895. Holmes est un détective reconnu dans tout Londres grâce aux aventures romancées de son comparse, le docteur Watson. Cependant, une nouvelle affaire vient mettre à les nerfs et la force de déduction de Sherlock à rude épreuve, puisqu'une femme aurait tué son mari juste après qu'elle se soit suicidée. Bouh ! Londres est en panique. Un fantôme semble prendre sa revanche sur les hommes de mauvaise foi. La particularité de cet épisode réside essentiellement dans sa trame scénaristique, puisque celui-ci fait des va-et-vient entre la période contemporaine de la série et l'époque de Sir Arthur Conan Doyle. Ainsi, à travers la sombre affaire de l'effroyable marié, il nous est donné d'assister à la résolution d'une enquête par le biais d'une autre enquête. Holmes, littéralement drogué, plonge dans son esprit en 1895 afin de résoudre l'affaire de l'effroyable marié qui semble avoir de nombreux points communs avec la mort et le retour de Moriarty, l'ennemi juré de Sherlock qui est de retour dans l'épisode 3 de la saison 3, donc l'épisode précédent. On peut craindre alors un résultat plutôt hétérogène, cependant les faits sont là, et bah c'est super bien écrit. Le rythme instauré par la réalisation vient appuyer des changements de décor et d'ambiance, on oscille entre présent et passé avec quelques références méta qui cependant ne viennent pas troubler le spectateur, mais on l'invite aussi à revisionner la série dans son intégralité à la recherche d'éléments singuliers sur la mise en scène, les personnages et parfois même de certaines affaires qui sont en lien des fois les unes avec les autres. Sans nul doute, ce dernier épisode fait partie des meilleurs de la série. Le dynamisme créé par les changements d'époque fait mouche et permet de rendre un vibrant hommage déjà aux nouvelles aventures de Sherlock, à ses personnages, mais aussi à Sir Arthur Conan Doyle. Ce dernier épisode clôture avec perfection la série et semble annoncer que du bon pour la quatrième saison.
Il faut dire que la reconstitution est assez merveilleuse.
Ah oui, c'est assez
merveilleux. Et revoir nos personnages avec parfois les mêmes tocs dans le passé, mais avec certaines déviances, pas déviances, mais oui. Les tocs sont un peu différents. C'est,
oui, oui,
c'est
oui.
Très amusant.
Bah, on a par exemple le docteur Watson qui dans le monde contemporain est quelqu'un de très protecteur avec sa femme, fait preuve dans l'époque victorienne, fait preuve d'un machisme hallucinant, hein. Ce qui est assez drôle parce que les personnages ont des différences. On voit aussi les différences entre le Holmes de l'époque 1895, et l'époque contemporaine. Il y a quand même des petites différences dans le jeu, dans les mimiques, ce qui fait que c'est très intéressant, et en plus on voit les personnages qui font des allers-retours justement.
Ça permet une redécouverte,
c'est
et
ça
permet aussi d'avoir une autre adaptation de cette époque écrite, décrite par Conan Doyle.
Oui.
Et je trouve ça vachement formidable, l'ambiance est très bien faite.
C'est très sombre, hein, par contre. Hein,
ouais. Moi, l'effroyable marié m'a foutu autant la frousse qu'au Dr. Watson. Hein,
oui, l'effroyable marié m'a vraiment stressé. Ouais. Enfin, avec le chien de Baskerville, c'est peut-être... ce qui est assez intéressant, c'est qu'on approche du fantastique, en fait. Enfin, toujours avec Sherlock, hein, on est dans quelque chose justement très scientifique, très littéraire. En même temps... Mais on approche souvent du domaine du fantastique. Et moi, j'ai eu la sensation. Enfin, ça m'a fait la même sensation que sur Chien de Baskerville, en fait.
Ouais.
Je disais, c'est une affaire surnaturelle. Alors que pas du tout. À chaque fois, les affaires, comme dit Sherlock, quand tu vois qu'il n'y a plus de possibilité, enlève ce qui te paraît fou et va au concret. C'est un peu ce qu'il dit à chaque fois, en fait.
Bien sûr.
Et c'est très intéressant. Et moi, je peux même vous conseiller de commencer par cet épisode-là et de redécouvrir les autres épisodes. Parce qu'on a énormément d'informations qui sont données dans ce dernier épisode. Il est très complet et très réussi. Et d'ailleurs, on va se quitter maintenant, mes chers amis.
On se quitte sur la musique de Sherlock.
C'est ça, le Mind Title. On vous dit à la semaine prochaine sur les Décadrés 99.9.
Sur
tu
PFM.
Seras là, Benjamin, voilà.
Et Mixcloud.
Et sur Mixcloud et la page Facebook des Décadrés. Ange, Benjamin, on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.